Djiba.
Enfin, je ne dirais pas que c'est la fin des souvenirs, bon, parce que les problèmes en Côte d'Ivoire existent depuis une trentaine d'années et les problèmes n'ont jamais été réglés. Et donc, Gbagbo Laurent est libre, c'est une très bonne chose. Je fais partie de ceux qui ont combattu la CPI parce qu'elle a fait une accusation, une justice sélective. Deux camps se sont battus, il y a eu des morts de part et d'autre. Vous allez vous prendre un camp avec le soutien de la France néocolonialiste en Côte d'Ivoire qui essaie d'imposer sa loi. Donc c'est autant d'injustices qu'on voulait voir régler. Et donc, parce que M. Ouattara avait la possibilité de prendre un autre chemin pour pouvoir régler l'accès de crise, mais il a décidé de faire cela et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire.
Mathias, maintenant, pour vous, quel impact pourrait avoir une éventuelle libération de Laurent Gbagbo pour la réconciliation nationale dans le pays? Mathias Ongpe?
Bon, disons que a priori, cette libération seule, de mon point de vue, ne peut pas suffire, n'est-ce pas, pour favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Et la raison est simple pour moi. Vous savez que cette libération semble dire qu'on n'a pas pu apporter des preuves que Gbagbo et Blegoudé étaient coupables, n'est-ce pas, des reproches qui leur étaient faits. Et donc, de mon point de vue, cette décision va conforter le sentiment des soutiens de Gbagbo qui ont toujours pensé que c'était un complot réunissant aussi bien le camp Ouattara et les puissances occidentales pour accuser un innocent. Gbagbo était présenté comme un innocent. Donc de ce point de vue, je ne suis pas sûr, par exemple, que cette décision va rassembler la classe politique, va adoucir la position des soutiens de Gbagbo qui ont toujours pensé qu'il était innocent. La deuxième chose qu'il faut dire, il y a quand même des victimes. Comme l'ont dit l'un de mes prédécesseurs, il y a quand même des victimes. Ça veut dire que ces destructions, les victimes, ne sont pas capables d'identifier ceux qui ont contribué à leur créer du tort. Pour moi, ça fait un deuxième obstacle. Pour moi, on ne peut obtenir la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire que si les acteurs politiques, au premier rang desquels il y a Gbagbo et Ouattara, sont capables de se mettre au-dessus de cette décision de justice pour poser les actes qui peuvent susceptibles amener de renforcer la cohésion nationale en Côte d'Ivoire.
Merci. Donc la décision effectivement a suscité de nombreuses réactions parmi la population, entre enthousiasme et consternation. Regardez.
Je veux dire qu'il revient pour la rancœur, ni bleu goudé, au contraire, Gbagbo revient pour réconcilier, pour dire aux gens que ce qui s'est passé, et puis on va en avant. Et rien, il ne vient pas pour la paix. Il vient pour la paix, il ne vient pas pour la rancœur.
Il faut que tous les Ivoiriens se présentent. Et puis il faut que la démocratie soit réelle, les élections soient présentes et puis ouvertes à tout le monde. Donc j'ai des craintes, Déjà ça commence, il y a des injures dans le journaux. Là, on sent que le climat est crispé. Donc j'ai des inquiétudes.
Exactement, nous luttons pour la réconciliation. Nous luttons tous pour la réconciliation. Donc le fait que Gbagbo ait été libéré, ça va encore motiver les gens à livrer la réconciliation.
Nous, qui a été touchés, on n'a rien dit sur nos problèmes, mal qu'on nous a fait, quand sera nos sorts, rien ne dit d'abord, et puis on libère Gbagbo. Ça veut dire aussi que ce qui est mort, c'est des moutons. L'État Côte d'Ivoire ne nous a pas respectés. Parce que ce pays ne peut pas décider quelque chose, ça a demandé autorité du gouvernement de Côte d'Ivoire.
S'ils pensent que la libération de Gbagbo peut avoir envoyé la réconciliation en Côte d'Ivoire, ils ont menti. Ils ont menti. Comme il a dit, ils ont tué nos enfants, ils nous ont dit de ne pas retirer pour nous. On l'a écouté, on n'a rien dit, on dit non, on l'attend. Gbagbo est parti à la haine, on pensait que la justice allait se faire. Comme il n'y a pas de justice, nous-mêmes, on fera notre justice. On va retirer nos coups. Nos enfants qui sont morts là. On va retirer nos coups. Et puis on va voir qui va partir à la haine.
Il n'y a qu'à une réaction sur ce qu'on vient de voir.
Parce que par rapport à...
Des victimes. au niveau des victimes.
Ah, non, non, bien sûr, je vais intervenir sur ça. C'est une situation qui est très complexe et quand j'entends les gens parler de façon partisane sur la question de la crise ivoirienne, cela me peine parfois. Parce que de quoi il s'agit? Monsieur Alassane Brahma Ouattara, à un moment donné, il a été rejeté et sa candidature a été rejetée à cause de sa nationalité. Donc il a fait une rébellion. Ils ont attaqué, ils ont tué. Quand sa candidature a été imposée et qu'on a dit qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas gagné, quand Gbagbo et lui, les deux disaient qu'ils étaient vainqueurs, la France, l'ONU et les rebelles d'Alassane Ouattara ont attaqué. Il faut que les gens sachent, il y a eu des morts. Donc quand il y a eu des morts, voilà, il faut que les gens sachent, il y a eu des morts. Donc il y a eu des morts, il y a eu des morts dans les deux camps, c'est de ça que je parle. Et donc, il faut que les gens comprennent qu'il y a eu des morts dans les deux camps. Mmh. Et qu'avant la chute de Gbagbo, à Dioukoué, 1000 morts de gens ont été tués par les rebelles de Ouattara. Et les gens de Gbagbo aussi ont commis des atrocités. Mmh. Maintenant, quand on parle de victimes, il ne faut pas donner une priorité à une catégorie de victimes au détriment des autres victimes.
Il y a eu des victimes d'un camp.
Il y a eu des victimes des deux camps. Donc on ne parle pas seulement. Si Gbagbo Laurent a commis des crimes, les gens qui parlent se considèrent comme des victimes. Il y a aussi d'autres personnes qui souffrent, qui sont proches de Gbagbo et qui ont été aussi victimes de cette crise en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, c'est le temps d'avoir une conversation sur le destin de la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, transcendons nos divergences et essayons de bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà un peu mon approche.
On va enchaîner justement que la réaction du gouvernement après cette décision.
Concernant M. Laurent Gbagbo, je vous dirais que depuis 2011, de nombreuses procédures ont été engagées contre plusieurs personnes. Et pour le reste, je vous dirais que je n'ai pas d'informations particulières là-dessus. Le moment venu, s'il est en Côte d'Ivoire, la justice avisera. Mais pour le moment, je ne peux pas préjuger.
Le gouvernement prend note de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le gouvernement prend également note de la décision du procureur de la CPI de faire appel de cette décision. Dans ces circonstances, le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien.
Voilà, c'était les réactions du ministre de la Communication et celui de la Justice. René, l'État annonce donc des mesures additionnelles en faveur des victimes. Quelles sont-elles et est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà les victimes, elles ont déjà été indemnisées?
Oui, c'est la question que je me suis posée moi-même, parce qu'il ne semble pas que ce soit le cas, ni au plan national, ni au plan international. Et je pense que ça augmente les frustrations des victimes, des parents de victimes, des amis des victimes, comme on les a entendus un peu dans votre reportage. Mais je crois que, par rapport à ce que disait notre ami tout de suite, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce que j'appellerais un peu les fausses équivalences. S'il est vrai qu'il y a certainement des responsabilités partagées, comme dans toute situation conflictuelle, il y a des gens qui sont aux affaires, il y a des gens qui ont la responsabilité principale, et il y a des gens qui sont dans une situation réactive. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas analyser les choses de la sorte, et en le faisant, on tient un discours partisan, même si notre invité s'en défendait. Mais je crois que le plus important maintenant, ce serait d'aller de l'avant et d'essayer de voir comment, dans un conflit, et ça c'est toujours le plus difficile, comment arriver à créer les conditions pour trouver un moyen de vivre ensemble et d'avancer ensemble.
Revenons sur l'homme, Mathias, si vous êtes toujours avec nous. Mathias, Laurent Gbagbo avait également été condamné à 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ses anciens ministres ont été coupés de la même peine, mais sont toujours en liberté. Alors, l'ancien président pourra-t-il être arrêté par l'État ivoirien? Alors, Mathias, vous êtes toujours avec nous? On ne l'a plus avec nous. Je vais lancer la question à Niaka. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo pourrait être arrêté une fois libéré?
Justement, l'ami qui parle, moi je suis, si vous ne me connaissez pas, j'ai eu des rapports distendus avec Gbagbo. Donc il faut que vous sachiez cela. Voilà. Donc pendant 10 ans, j'avais des rapports distendus avec son administration. Ici, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et la question que Raïssa pose est une question importante. Babo Lorraine, même s'il est aujourd'hui sorti de prison, Babo Lorraine ne va pas aller en Côte d'Ivoire dans les conditions que nous connaissons. Parce que quand il va arriver, le régime qui a pris les armes pour pouvoir arriver au pouvoir fera tout pour pouvoir le neutraliser. Il y a cette menace et c'est pour cela que les conditions doivent être réunies pour qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Mmh. Et donc c'est pour dire que quand on parle de réconciliation, ce n'est pas forcément du camp de Babo, il faut aussi voir aussi le camp de M. Ouattara.
Mathias, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'ancien président pourrait être arrêté par l'État ivoirien?
Alors, disons qu'en suivant simplement les procédures judiciaires, c'est possible, parce qu'il a été condamné en son absence sur d'autres questions que celles qui ont été portées devant la CPI. Et donc on peut imaginer que, ou du moins supposer que raisonnablement, il est possible qu'une fois qu'il retourne en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne maintenant se saisisse à nouveau de cette affaire pour lui faire respecter la sentence qui a été donc prononcée à son endroit. Mais ceci dit, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, à mon avis, lorsque vous avez traversé les crises comme celles que la Côte d'Ivoire a connues, je crois qu'il faut se donner tous les moyens disponibles pour rechercher ce qui aide à renforcer la cohésion nationale et ne pas simplement compter sur la justice au sens formel du terme. Si vous regardez très bien tous les pays qui ont traversé champ de crise et qui ont suivi le processus de justice transitionnelle, comme on les appelle, ont fait recours à beaucoup de paramètres, à beaucoup de moyens permettant...
Oui. Merci beaucoup. Washington Forum revient après une courte pause. On va parler des conséquences de cette décision de la CPI sur la vie politique du pays. Seconde partie de Washington Forum. Nos invités toujours avec nous en direct de Dakar via Skype, Mathias Ompé, analyste politique. Sur notre plateau à Washington, René Lake, consultant politique, et Niaka Lagoké, professeur d'histoire et d'études panafricaines à Lincoln University. Donc Mathias, on est à 2 ans d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Quel pourrait être l'impact de cet épilogue judiciaire sur la scène politique ivoirienne?
Le premier impact que je vois, c'est déjà le rôle que le président Gbagbo va jouer sur la scène politique. Tout porte à croire qu'il ne viendra pas, sinon le laisser rentrer et qu'il n'était pas mis en prison, qu'il ne viendra pas simplement s'asseoir comme un retraité politique et qu'il va tenter de jouer encore un rôle sur la scène politique ivoirienne. Ceci va entraîner, de mon point de vue, automatiquement une sorte de mouvement pour ressouder le FPI. Et donc, on va se retrouver devant les 3 forces qui ont animé la scène politique en Côte d'Ivoire depuis
1995. Niaka, il n'a pas l'air convaincu. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo prendra une part active?
Non, je suis d'accord avec Mathias.
Ah, vous êtes d'accord?
Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Mathias. Non, j'étais d'accord avec lui. Parce que ce qu'il dit, c'est important. Et c'est pour ça que ce que René disait, je ne peux pas être d'accord. C'est-à-dire qu'en tant que des gens qui nous disent d'être neutres, les mêmes acteurs, et c'est ce que Mathias dit qui est important, les mêmes acteurs qui ont été impliqués dans la crise ivoirienne depuis 30 ans seront encore candidats en 2020. Et donc, s'ils ne sont pas visités par une force supérieure, nous risquons encore d'ouvrir une autre page de la crise ivoirienne. Parce qu'on sait comment les élections se passent en Afrique, et donc c'est pour ça que j'étais d'accord avec Mathias, c'est pour ça que je souriais.
René, est-ce qu'on assistera-t-on du coup à une remobilisation des partisans d'Alassane Ouattara?
Oui, c'est quelque chose qui peut se passer. Mais écoutez, ça dépend d'abord. On n'est pas sûr d'abord que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire avant 2020. Ce n'est pas du tout garanti. La Belgique, semble-t-il, a accepté de l'accueillir quand il quitterait La Haye. Et il est tout à fait possible que les négociations, les discussions et même le vrai débat de réconciliation se fassent pendant cette période-là et qu'au fond, ce soit la responsabilité de la prochaine administration que de régler le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ça peut être peut-être une solution qui pourrait être plutôt intelligente et utile pour l'ensemble du pays et pour justement qu'on ne se retrouve pas dans la situation que décrivait Nyanka tout à l'heure, où ce seraient encore les mêmes acteurs qui se retrouveraient au premier plan politique. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération.
Mathias, parlons d'un autre acteur, Guillaume Soro. Donc Guillaume Soro, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, avant vice-président du RDR, parti actuel du président Alassane Ouattara, il joue la carte maintenant de l'apaisement en prenant la réconciliation nationale et s'est en même temps rapproché des Gbagbo. Alors, pouvez-vous clarifier sa position et puis quels sont les scénarios possibles pour lui?
Disons que je ne veux pas clarifier sa position aujourd'hui, mais je peux dire au moins ceux avec qui il risque de ne pas se trouver. Je crois que les événements ces derniers temps ont donné le sentiment qu'il était plutôt en désaccord avec le RDR et le président Ouattara. Donc c'est comme si tout porterait à croire que dans les semaines, mois à venir, Soro aurait un destin différent du chemin que tracerait le RDR. Ceci dit, on a vu également travailler énormément à se rapprocher du PDCI et en même temps du FPI. Et donc, de mon point de vue, je pense que Soro joue aujourd'hui une carte de demande de pardon vis-à-vis des gens avec qui il estime avoir posé des actes, je dirais, condamnables. Il demande pardon et il se rapproche du PDCI et du FPI. Je ne lui verrais pas donc un avenir s'il n'était pas en mesure de continuer sur ce chemin et de réussir à gagner leur confiance à nouveau. Parce que comme vous l'avez si bien dit, il était proche de Gbagbo, les gens le considèrent même comme un fils spirituel d'une certaine manière de Gbagbo. Et donc, s'il ne réussissait pas à faire cela, et que ces désaccords continuent avec le RDR, son destin pourrait être difficile.
René, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y aura des nouveaux axes politiques qui vont se former dans le pays à l'aube des élections?
Je crois que les deux principaux acteurs qu'il faudra suivre, c'est d'une part Gbagbo pour voir un peu dans quelle direction il va aller, quel est son état d'esprit, et Bédié également de voir un peu quelle carte il voudra jouer pour du PDCI, pour voir quelle carte il voudra jouer en 2020. Mais vous savez, c'est là peut-être mon côté un peu optimiste, je veux penser que le candidat qui sera le mieux placé, ce sera peut-être celui qui aura la capacité de dire on va rassembler tout le monde, on va passer à une autre phase, on va ouvrir un nouveau chapitre de la vie politique de Côte d'Ivoire, et il y a de fortes chances que cela soit un atout politique majeur pour 2020.
Il n'y a qu'à vous réagir.
Alors René, d'accord et pas d'accord avec lui. Celui qui pourrait rassembler les Ivoiriens aujourd'hui, c'est Gbagbo. Ça ne peut pas être Alassane Dramane Ouattara. Il a eu l'opportunité pendant 7 ans de faire le rattrapage ethnique, de mettre des gens en prison ici et là. Donc aujourd'hui il est opposé à Soro Guillaume, il est opposé à Bédié. Donc Ouattara ne peut pas être le candidat du rassemblement. Celui qui a l'opportunité historique, je n'ai pas dit qu'il va le faire forcément, celui qui a l'opportunité historique de transcender sa douleur et sa tragédie pour rassembler les Ivoiriens, c'est Gbagbo Laurent. Et là encore, vous estimez qu'il ne doit pas être là avant 2020. Donc il y a une contradiction. Donc je voulais juste dire cela par rapport au contexte en Côte d'Ivoire.
Nyaka, dans une vue d'ensemble, là, de tout ce qui s'est passé avec la Cour, la CPI, etc., quelle serait vraiment l'incidence de l'acquittement de la libération, l'éventuelle libération de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé sur les activités de la Cour pénale internationale?
Oui, la Cour pénale internationale, René l'a dit au début, a sa réputation est tarnished, pour dire ça en anglais, sa réputation est totalement endommagée. La CPI, ils n'ont pas pu aller après Uhuru Kenyatta qui a été libéré, Bemba a été libéré. Dans les deux cas, il y avait des pressions politiques. Avec Bemba, c'était le procureur ou bien la procureure. Dans le cas de Gbagbo, ce sont les juges. Mais cela arrive dans un contexte du renouveau du panafricanisme. des gens qui se mobilisent ici et là. Ce n'est pas parce que Laurent n'aurait pas commis de fautes, mais cela donne un message d'espoir à tous les Africains qui sont en train de lutter pour la souveraineté politique et économique de l'Afrique, parce que la CPI est un instrument dans les mains des puissants pour pouvoir citer le titre d'un ouvrage. Donc maintenant, malheureusement, la chambre d'appel a fait appel, et donc ça va être assez compliqué par rapport à cela.
Est-ce que vous pensez que ce cas-là, Laurent Gbagbo, CPI, c'était vraiment le candidat de la France-Afrique?
Non, je ne vous même pas, parce que c'est un discours que l'on entend.
De quoi il parle?
Pour réagir par rapport à la CPI.
Je ne vous pas du tout, parce que c'est un discours qu'on entend depuis très longtemps, et que je comprends, sous un certain rapport que je ne partage absolument pas. Moi, je pense qu'il est extrêmement important qu'il y ait des formes, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue d'instruments juridiques, qui permettent de pouvoir tempérer les abus qu'il y a à l'État, dans les États africains comme dans les autres États à travers le monde. Mais je sais que c'est une tâche qui est extrêmement difficile, et comme le disait Naka tout à l'heure, pour reprendre un point de vue que j'ai moi-même émis en début d'émission, c'est sûr que la CPI, la crédibilité de la CPI va poser un petit problème à ce niveau-là, parce que d'un côté, pour ceux qui pensent qu'elle est anti-africaine, entre guillemets, il y a de quoi dire, et pour ceux qui, comme moi, pensent que c'est une institution absolument indispensable à l'avenir, je pense que sa réputation a été un peu mise en mal.
Mathias, j'aimerais vous entendre sur ce sujet.
Non, je suis d'accord que ça va ajouter du grain à moudre à ceux qui ont l'habitude de critiquer la Cour, mais je voudrais juste attirer l'attention sur un fait. Le fait que quelqu'un accusé devant une Cour a été jugé ou déclaré non coupable ne veut pas dire que la Cour est mauvaise. Lorsque la Cour vous dit que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour accuser, pour déclarer coupable un accusé, ne veut pas dire que la Cour est mauvaise. Et donc je pense qu'il ne faut pas simplement qu'on considère que parce que par exemple Bemba a été libéré, Oro n'a pas été, on n'a pas pu l'amener devant la justice, ou que Gbagbo a été déclaré acquitté, que ça veut dire que la Cour est partiale ou non. De mon point de vue, ça ne suffit pas. Vous allez devant nos cours de justice dans nos pays, il y a plein de gens qu'on acquitte tout le temps ou qu'on accuse. Je ne crois pas que ça suffise pour dire que la Cour. Maintenant, cette Cour a cette faiblesse. Je conviens avec vous à cette difficulté sur laquelle je pense que la présente procureure générale est en train de travailler sérieusement, mais je crois qu'il ne faut pas prendre ces cas pour apporter des jugements définitifs sur la Cour.
Rapidement.
Oui, rapidement. Je pense que les amis, je pense qu'ils doivent faire leur homework. Parce qu'il y a eu des ouvrages qui ont été écrits par la CPI. La CPI, c'est un joker dans les mains des puissants. Ça a été écrit par des blancs. Et donc, quand on lit cela, on se rend compte que la CPI est un instrument dans les mains des puissances néocolonialistes. Et cela a été établi par des gens qui ne sont pas africains. Donc, je voulais dire ça. Et pour qu'on se mette d'accord sur ce débat. Donc, cela ne vient pas forcément de moi.
Mot de la fin.
Oui, écoutez, moi, j'espère que, comme je disais tout à l'heure, que le nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, sera un chapitre de réconciliation pour aller de l'avant ensemble. Personnellement, contrairement à Niaka, je ne crois pas du tout au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Mm-hmm. Ce serait en tout cas pour moi une très grosse déception, moi qui ai travaillé très longtemps avec lui, et je suis convaincu que ce n'est pas du tout dans ces plans-là. Et je pense que la personne qui pourra sortir des élections de 2020, j'espère que ce sera quelqu'un qui le fera sur la base d'un programme de réconciliation nationale.
Mathias, mot de la fin?
Oh, moi je pense qu'il appartient vraiment à ces trois grands leaders, pour commencer, je veux dire Bédié, Ouattara et Gbagbo, de se lever au-dessus, n'est-ce pas, des considérations particulariste pour aider à sortir la Côte d'Ivoire de la situation difficile vers laquelle elle pourrait aller d'ici à 2020.
Voilà, merci beaucoup à tous nos invités. Un gros coucou au peuple ivoirien. C'est déjà la fin du débat. C'était Raissa Girondin avec vous. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.